Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
12 postes.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste, midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mois. Je vais
nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure avec moi,
les
citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio,
autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste,
la radio,
vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et oui, vous êtes bien sûr le Tous au poste. Nous sommes sur le 93.9 et nous commençons notre virée culturelle de 50 minutes. Il est midi 10, nous sommes le mercredi 28 avril et je vous souhaite eh bien, un bonjour à tous et à toutes. Pascal Rullier derrière les petits boutons, Julia Chamaudon et Florent Robin au micro. Aujourd'hui, au menu du jour, eh bien, ce sera un midi tout en théâtre avec La Matrice, le temps des musons, un spectacle qui se déroule en ce moment à La Chapelle, servi par Yves Bourmelon et Lydie Paris. On les reçoit en première partie de ce Tous au poste. Et en deuxième partie de ce Tous au poste, ce sera Les Justes qui se déroule en ce moment même au Théâtre des Trésons avec, je le rappelle, un casting de Haut Vol, Emmanuel Béard, Wajdi Mouawad et j'en passe. Ce sera en deuxième partie de ce Tous au poste. Au micro de Florent Robin. Mes filles de tout cela passent au bon plan, passent au bon plan, place au bon plan. Et pour commencer ces bons plans, c'est en chanson avec Renan Lucet, certifié disque de platine en décembre 2007. Après avoir empoché 2 victoires de la musique en 2008, Renan Lucet nous revient avec son second album, Le Clan des Miro, sorti en octobre 2009. On y retrouve son goût du portrait vécu, ses anecdotes abracadabrantes sur le quotidien, des chansons-films qu'on imagine volontiers en noir et blanc ce soir à 20h30 au Zénith, domaine de Grammont. Il vous en coûtera entre 30,80€ et 33,80€. Seulement 6,80€ pour vos bambins âgés de 6 à 10 ans. La première partie est assurée par Benoît Dorémus et son nouvel album 2020. Lonely Drifter Karen, un groupe de pulp folk européen qui nous vient eh bien, d'Italie, d'Autriche et d'Espagne, formé par la chanteuse et guitariste Tanja Frinta, Marc Melia Sobrevias et Giorgio Menossi à la batterie. C'est du pop folk influencé par des cabarets berlinois. À voir à 20h au Rockstore 20 rue de Verdun pour une entrée entre 10 et 13 euros. Je rappelle que c'est également la nouveauté de la semaine de Divergence FM. Laurent Montagne, après une première devant plus de 500 personnes conquises au Train Théâtre de Port-les-Valences, Laurent sera là pour 2 jours sur Montpellier au Théâtre Gérard Philippe pour vous présenter son nouveau spectacle. Une création soutenue par la Bouche d'Air à Nantes, le Train Théâtre et la région Rhône-Alpes. Un seul en scène au pluriel, une création vidéo originale où l'artiste vous fera goûter au paradoxe de l'égocentrisme absolu. Comment être plusieurs en étant tout seul? Il interprétera les chansons de son nouvel album Où me mènent mes pas, à voir à 20h30, plutôt à écouter. Au théâtre Gérard Philippe, cette rue Pagès. Si vous détenez le pass culture, il vous en coûtera 5€. Pour les autres, ce sera entre 8 et 10 euros seulement. Un petit tour du côté du soleil avec Foro Ben TV, un groupe de musique du nord-est du Brésil. En première partie, ce sera DJ Leonardo à 20h30 à l'Antirouille, 12 rue Anatole France, pour une petite entrée à 5€. Le rock sera dans la place avec Scarlett, un groupe de punk italien. En première partie, La Meute, un groupe de punk montpelliérain. À écouter sauvagement à 21h au Mojomatic, un rue Cambacérès pour une toute petite entrée à 4€. Beatbox avec un beat de bouche, une soirée crazy beatbox session à 21h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figrol. L'entrée est libre. Côté théâtre, c'est Camus et Nordet qui sont à l'affiche des Justes, une pièce d'Albert Camus mise en scène par Stanislas Nordet avec Emmanuel Béard, Vincent Dicez, Raoul Fernandez, Véronique Nordet, Wajdi Mouawad. Nous sommes à Moscou en 1905, un attentat à la bombe est organisé contre le Grand-Duc par le Parti révolutionnaire. Il s'agira de terrorisme et de la légitimité du meurtre. C'est à voir à 19h au Théâtre des Trésors à Grammont, avenue Albert Einstein. Il vous en coûtera 14 ou 21€ tout de même. Toujours à propos de théâtre, c'est un solo dont il est question. Frédéric Hôtesse de Caisse, un texte de Claude Tell, mis en scène par Karim Amiche, interprété par Véronique Hulin de la compagnie Hardy, nouvelle compagnie montpelliéraine, je le rappelle. Le défilé des gens ordinaires et une caisse de supermarché à voir à 20h30 au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, pour une entrée entre 6 et 10 euros. Et bien sûr, nous n'oublions pas eh bien, l'égérie théâtrale du jour, c'est Pénélope au Pénélope. D'après le texte de Simon Abkarian, mis en scène par Camille Dallot, à voir ce soir dans le cadre du festival étudiant L'Archduc au théâtre de la Vignette. Ça nous, on y parlerait eh bien du mythe de Pénélope et Ulysse revisité façon moderne, une tragédie, une tragicomédie qui envoie. Je rappelle que c'était à 19h15 et que c'est gratuit en plus. Pour vos enfants ou pour vous-même, hein, un jeu de voix, un conte sorcier conçu et mis en scène par Armelle Orieux avec le comédien Guilhem Rosa et Armelle Orieux elle-même qui est mezzo-soprano, onomatopée, bruit de bouche, imitation d'instruments, vocalise et histoire drôle. C'est à partir de 9 ans à écouter à 15h à l'Opéra Comédie, place de la Comédie, pour une petite entrée à 1,50€ ou 3€, bravo. Pour les enfants toujours, aïe aïe aïe, un spectacle de magie loufoque de Vanessa Garnier et Laurent Bonnaz à partir de 3 ans, à voir à 16h au Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume Pélissier, pour une entrée entre 4 et 7 euros. Côté conférence, de la poésie avec Argelia, Algérie, poème lu par leur auteur Arlette Daumont, en musique s'il vous plaît, à 18h au centre 665, 665 route de Mende, pour une toute petite entrée à 2 euros seulement. Et bien sûr, l'Agora des Savoirs, ce soir une conférence sur le thème « La vision moderne du temps conduit-elle à sa disparition ?» par Marc Lachiaise, directeur de recherche au CNRS, le commissariat à l'énergie atomique de Saclay. C'est à écouter à 20h30 à la salle Rabelais, boulevard Sarail, sur l'Esplanade ou sur Divergence FM, puisque nous retransmettons eh bien, la conférence en direct. L'entrée est libre, je le rappelle. Côté livre, Camus est également à l'honneur avec une rencontre sur le thème Camus libertaire, Camus non violent, dans le cadre de la sortie des livres Albert Camus et sa critique libertaire de la violence de Lou Marin, Les derniers jours de la vie d'Albert Camus de José Lanzini. C'est avec les auteurs et les éditeurs Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou des éditions Indigènes. C'est organisé par la librairie Soramps et c'est à 18h30 à la médiathèque centrale Émile Zola à Antigone, bien sûr, l'entrée est libre. Renan Lutz est à Montpellier et son frère aussi, Damien. Une rencontre avec le chanteur et son frère, pianiste classique et compositeur. Damien dédicacera son livre Le Chambrioleur et son CD Histoire de Babar, impression d'enfance à 14h30 à la librairie Soramps Odyssée à Odysseum. Voilà, c'est tout pour nos bons plans du jour. Je vous laisse entre les mains de notre nouveauté de la semaine. C'est Lonely Driften Caron, influencé dès l'enfance par les comédies musicales vues dans les théâtres et salles de cinéma de sa ville natale de Vienne. Tanja Frinta commence à écrire des chansons dès l'adolescence. Elle écoute également beaucoup de post-punk et fonde un trio indie-pop féminin dans lequel elle chante et joue de la guitare. À écouter donc, on écoute tout de suite Julien.
Julian was an angel, his heart was made of gold. When they kissed, oh, his lips felt so cold. Julian was an angel, attraction you see. Touched his body with eyes full of greed. Listen to me, angel. Hear the moans in the silence of your thirsty soul. Listen to me, angel, standing apart in the glory of your lonely heart. Everybody wants you, makes you fly so high, coming down easy like a walrus from the sky. Everybody wants you, makes you fly so high, coming down easy like a walrus from the sky.
Paris, qu'on attend toujours en compagnie d'Yves Gourmelon pour parler de son spectacle La Matrice 1, Le Temps des Musons. Peut-être on va bien engager un nouveau morceau de cette nouveauté de la semaine, ça la fera peut-être venir.
Eventually, it will give in and burst in relief.
Thank you.
On écoutait Eventually de Lonely Drifter Karen. Un trio est bien composé de Mutanja Frinta, Marc Melias Obrevias et Giorgio Menossi. Et dans l'attente irrésolue de Lydie Paris et Yves Gourmelon, eh bien nous allons basculer sur de la musique. Nous vous présentons le sédiment magnétique de Divergence FM. Et oui, Lydie Paris est enfin là, elle est dans nos studios et je l'accueille en lui disant un gros bonjour.
Bonjour
à vous, bienvenue. Alors vous venez aujourd'hui pour présenter bien votre nouveau spectacle, La Matrice 1, Le Temps des Musons. C'est également vous qui êtes auteur du texte, je crois même que c'est le troisième texte que vous portez à la scène après Réalitarium, qui était une création qui s'est déroulée en 2009, et puis L'Encercleur, une création qui elle s'était déroulée en 2006 aux éditions de l'Entretemps. La Matrice 1, Le Temps des Musons, lui, a été publié chez Domens, dans la collection Théâtre, et vous le portez à la scène eh bien, avec votre ami Yves Gourmelon. C'est bien cela.
Oui, c'est bien cela.
Alors, étant donné que c'est vous qui êtes l'auteur de ce texte-là, je rappelle un petit peu, pour brosser un petit peu l'histoire, c'est une fable mythologique qui s'attarde beaucoup sur le mythe des muses. J'aurais voulu savoir pourquoi parler des muses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet-là ?
Oui, alors tout d'abord, je rectifie le nom de fable mythologique parce qu'on avait mis ça commence comme ça, mais ça n'a rien à voir avec une fable mythologique. C'est complètement dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, il n'y a aucun rapport en fait. Si ce n'est que ça parle en effet des muses, mais pas du tout de manière mythologique. C'est-à-dire que ça parle de l'inversion des rôles de l'écrivain et de la muse. Pourquoi est-ce que je suis passionnée par ce... J'ai un peu étudié ça, j'ai regardé des choses dans la littérature que je connais bien et puis j'ai remarqué qu'il y avait des schémas récurrents souvent que les écrivains font de l'écriture sur la perte d'une muse, voilà, c'est-à-dire la muse elle est là, on la rencontre dans la rue et puis après on l'abandonne ou on la perd de vue, alors elle devient folle ou enfin ou disparaît ou malade
ou elle est remplacée, voilà.
Par une autre muse. Donc c'est un schéma qu'on trouve vraiment partout et c'est incroyable quoi. Alors c'est peut-être des choses auxquelles on n'était pas attentif ces dernières années, mais en tout cas moi j'y suis drôlement attentive et j'ai eu envie d'écrire là-dessus, j'ai trouvé ça passionnant comme sujet.
Finalement, vous parlez de la création au féminin, alors ?
Oui, oui. Moi, je travaille sur qu'est-ce que c'est que la création ? C'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire comment on se met à créer, à partir de quels matériaux, à partir de C'est vrai que j'ai longuement travaillé là-dessus et donc voilà, c'est ça porte là-dessus sur la création au féminin. Alors c'est pas seulement la création au littéraire, hein, mais ça englobe tous les arts, quoi. C'est une façon de parler de ça, voilà.
D'ailleurs, ça englobe tous les arts. On retrouve ce mélange artistique sur scène puisque on a autant et eh bien des participants à votre projet qui vont intervenir de façon musicale que de façon théâtrale, que d'une autre façon. C'est très mélangé, je dirais.
Oui, oui. Bon, là, on est accompagné dans l'équipe par des gens qui ont un certain niveau. Enfin, en son, des gens qui travaillent à la Chartreuse de Villeneuve, les Avignons, là, cette semaine, la semaine précédente. Et on a des techniciens, enfin, son, vidéo, qui sont très performants. Et puis, on a aussi un danseur. Donc, c'est vraiment art mêlé, quoi. Et puis, il y a l'aspect aussi installation plastique. Voilà, qui fait toujours partie de ce qu'on propose, de ce que je fais.
Alors c'est quoi? C'est la volonté de mêler les genres pour parler de la création au pluriel, au sens large?
Oui, je crois que c'est ça, oui, je pense. C'est pas pour parler, j'ai pas d'objectif, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça se fait comme ça, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de barrière entre les différents arts, quoi.
Alors, en tout cas, l'histoire traverse les grandes catastrophes du XXe siècle. Est-ce qu'on peut y voir une portée historique là-dedans?
Ah oui, drôlement, oui. Non, je crois que, si vous voulez, tous les temps se mêlent, le temps de ce que vit le personnage au présent, parce qu'il y a comme un personnage principal qui est une muse, enfin, bon, c'est... Et sa sœur, c'est deux femmes, hein, quand même. Là. Et puis, autour de ça, il y a d'autres personnages plus énigmatiques qui gravitent. Oui, ça parle d'un vécu individuel, mais aussi de tout le vécu collectif, quoi.
Alors, quelle période historique vous mettez en scène, plus particulièrement?
C'est le XXe siècle, quoi.
Le XXe siècle. Ouais. Est-ce qu'il y a des événements historiques que vous mettez particulièrement en lumière?
Je sais pas, il faut que vous veniez voir, parce que là, je saurais pas répondre.
Alors, je rappelle que c'est le premier volet d'un diptyque, puisque vous avez envie de porter une action globale, hein, qui se poursuivra en 2011 auprès des publics. C'est quoi? C'est une volonté d'approcher la création hors espace de la représentation? Pour la suite des événements.
Oui, disons que c'est quand même un texte qui porte sur les femmes, sur le féminin, sur l'écriture des femmes. Il faut quand même dire que pendant longtemps, ça fait très peu de temps qu'on peut porter des textes de femmes à la scène, des femmes metteurs en scène. D'ailleurs, on a lu un texte de Duras là-dessus dans les années 60 qui était vraiment intéressant. Et voilà, quoi, c'est tout, ça porte là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, voilà, qu'est-ce que c'est que la création au féminin, qu'est-ce que c'est, faut en parler. Donc là, ce que j'ai prévu dans les actions, parce que c'est un spectacle qui a déjà été acheté, donc il va déjà tourner, bien sûr, dans plusieurs lieux l'année prochaine, plusieurs villes. Et donc je mènerai des actions autour d'ateliers d'écriture, notamment, que j'ai l'habitude de mener des ateliers d'écriture. Et puis également autour des conférences sur la notion de genre dans la création. Enfin, il y a tout un tas d'actions que j'ai prévues, que je vais développer dans d'autres villes. Et que je souhaite redévelopper aussi à Montpellier pour la seconde phase du travail que j'espère on va pouvoir monter. C'est la matrice 2. Donc voilà. Ça fait partie, le texte qui vient d'être édité fait partie d'un matériau textuel beaucoup plus important. Et de là seront tirées deux pièces. Voilà.
Quel regard personnel vous portez sur la place des femmes en relation avec les institutions actuellement ?
Ben, on sait très bien que, notamment dans le milieu du théâtre, il y a des statistiques qui montrent que la place des femmes est extrêmement limitée. Alors, sur le plan des auteurs, ça c'est normal parce que la création littéraire était quand même depuis longtemps, quand même du côté des hommes, donc ça c'est assez logique. Sur le plan théâtral, les hommes, il y a très peu de rôles qui sont écrits pour des femmes quand même. Et puis au niveau de l'institution, les femmes sont très peu représentées dans les postes clés. C'est absolument incroyable. Hein. Mm-hmm. C'est de l'ordre de 80-90% d'hommes.
Hein. Mm. Ou alors quand elles sont représentées, elles sont moins payées que les hommes.
Oui, bien sûr, il y a aussi tout ça, hein, c'est sûr. Hein.
Oui. Donc, vous êtes également metteur en scène de ce spectacle. Comment on adapte scéniquement on vous disait que c'était une fable, que ce n'était en rien une fable mythologique. Est-ce qu'on peut quand même y voir du lyrisme ou alors totalement un détachement par rapport au lyrisme des muses, au lyrisme de la muse de cet univers un petit peu
Ce qu'on appelle lyrisme, c'est quand même lié à la notion de chant, par exemple. Hein, oui, donc ça, c'est très présent là, cette notion du chant. Oui.
Quelle démarche vous avez pour mettre en scène ce spectacle-là?
Ma démarche, c'est que quand j'écris un texte, c'est un dispositif scénique. Donc c'est un dispositif scénique. Le texte est un dispositif scénique. Donc tout est visualisé déjà d'avance, quoi. Et il a une particularité, ce spectacle. Moi, je suis pour les formes déambulatoires, éclatées. Enfin, je fais une recherche sur les formes. Et donc, il y a ici trois cellules. C'est des cellules d'habitation de la muse. C'est-à-dire, il n'y a pas sa chambre. Il y a la cuisine, c'est quand même l'élément le plus important. La salle de bain et l'atelier, donc, qui est un lieu à part, quoi. Voilà.
Où elle peint, finalement, où elle se retrouve juste muse, ou où elle peint elle-même, elle crée.
Il faut venir voir, justement. D'accord. Non, mais c'est toute l'histoire de lieux de notre quotidien qui sont mis en scène avec des lieux parallèles qui partent de nos lieux quotidiens.
Et au niveau de la scénographie, tout cela est visible en même temps.
Ah oui, évidemment. Oui. Et audible, parce que je suis extrêmement attachée à l'image. D'ailleurs, on a eu plusieurs photographes déjà, là. Ils ont trouvé fabuleux l'image. Et on travaille aussi sur le son, beaucoup.
Ouais. Au niveau des thématiques phares qui ressortent de ce spectacle, il y a quand même donc la créativité chez l'individu. Vous parliez également du temps des musons. Le muson étant un néologisme pour décrire la muse au masculin. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Donc c'est une invention, le muson, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est très convaincant, si j'en déduis les réactions du public féminin qui est venu voir la première du spectacle hier soir. Voilà. Je pense que c'est une notion qui va certainement faire son chemin. Donc le muson, c'est donc la muse au masculin. Voilà. Et c'est vrai que ça parle de ça, quoi. Le temps des musons, c'est le sous-titre du texte qui montre que il y avait le temps des muses. Après, il y a le temps des musons.
Place aux hommes. Il y a également un sentiment d'abandon, de disparition. Est-ce qu'on peut faire écho? Est-ce que ça peut faire écho à une problématique de notre société actuelle?
Je ne sais pas, c'est inactuel au possible, cette notion de disparition, si vous voulez, parce que c'est lié à la mémoire affective de l'individu. Et il y a quand même, il faut le dire, une histoire d'amour qui est centrale. Donc il y a quand même plusieurs fils qui se tissent dans ce... Et il y a un aspect fantastique, mais il y a aussi une histoire d'amour. Donc c'est une manière d'écrire une pièce féministe, parce qu'elle est vraiment féministe, mais sans exacerber la guerre des sexes, si vous voulez. Voilà, l'homme n'est pas quelque chose à rejeter absolument, n'est pas l'ennemi numéro un à abattre. On n'est pas dans cette problématique-là. On est dans une problématique de dialogue plutôt entre les sexes. Et puis bon, il y a l'amour, il y a de la sexualité, de l'érotisme. Tout ça est présent, quoi.
Ouais. Vous êtes donc dans une ouverture, finalement.
Oui, voilà, oui.
Alors, il nous reste très peu de temps, vu qu'on a commencé en retard. Je vais rappeler brièvement où vous pouvez le voir, quand vous pouvez le voir. Alors, c'est du mardi 27, bon là c'est passé, hein, mais vous pouvez encore le voir jusqu'au 30 avril. Et puis également du mardi 4 au vendredi 7 mai à La Chapelle, c'est à 19h. Il vous en coûtera entre 8 et 12 euros. Je rappelle que La Chapelle, c'est quartier Gély à Figerolles, 170 rue Joachim Dubellay. Si vous y allez en bus, eh bien vous prendriez le 11 et vous vous arrêterez à l'arrêt cité Gély. Vous pouvez réserver au 04 67 42 08 95. 04 67 42 08 95. C'est une production théâtre au présent. Est-ce que vous pouvez rajouter un petit, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de nous quitter?
Non, je ne vois pas.
Et ben, je vous souhaite une bonne représentation.
Merci en tout
alors.
Cas, merci à vous.
À très bientôt.
FM Radio.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9, Florent Robin au micro. Et nous allons en parler à nouveau de théâtre avec la pièce de Albert Camus, Les Justes, mise en scène par Stanislas Nordet, qui se joue au théâtre des 13 vents. J'ai le plaisir de recevoir Claire Ingrid Contenson.
Claire Ingrid Cotenceau.
J'ai toujours des problèmes pour prononcer les noms. Et Vincent Dissez, comédien. Donc vous êtes la collaboratrice de Stanislas Nordet pour ce spectacle.
Entre autres, oui. Je collabore à plusieurs de ses spectacles depuis 10 ans maintenant. Donc collaboratrice artistique, la définition elle est multiple. En ce qui nous concerne, c'est vraiment un accompagnement à partir de la distribution, de tout le travail préparatoire, de la mise en scène, du décor, des costumes, avec évidemment les artistes associés pour ces outils-là. Voilà.
Alors Les Justes, c'est une pièce qui a été écrite donc en 1949, donc dans l'immédiate après-guerre. C'est une pièce qui pose la question de la légitimité du meurtre. Et c'est basé sur des faits réels, si je ne me trompe pas.
Absolument.
Nous sommes en 1905 à Moscou. Vous pouvez nous résumer un petit peu l'histoire ?
Alors l'histoire réelle, il y a un groupe dans lequel est Ivan Kalyaliev, qui est donc un terroriste, et qui vont organiser un attentat contre le grand-duc Serge. Cet attentat va être remis en question parce que il va échouer, parce qu'il y avait les deux enfants du grand-duc dans la calèche. Et voilà, Ivan Kalyaliev se retrouve en prison, vient le voir. Donc ça, c'est les personnages réels qui sont retransmis par Camus dans la pièce. La grande duchesse, donc la femme du grand duc, et donc la pièce est totalement inspirée de l'histoire réelle. Voilà.
Alors Vincent, vous jouez le poseur de bombes. Le poète.
Ouais, le poseur de bombes, poète, absolument, celui qui va. Qui va être un petit peu confronté à la réalité de son geste, celui qui pense au départ que, avec enthousiasme, que poser une bombe, ça peut contribuer à changer le monde, et qui va se retrouver face à la réalité de son meurtre, de son geste.
On peut dire que c'est une pièce poétique, une pièce politique.
Alors là.
Et épique,
ouais.
Je pense que quand Camus l'a écrite, il écrivait en même temps L'homme révolté, qui est un essai philosophique, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs Les meurtriers délicats, qui est complètement la même trame, on va dire, au niveau de la réflexion philosophique sur le thème du meurtre. Et nous, le travail qu'on en a fait, je pense qu'on peut l'appeler aussi théâtre épique, c'est-à-dire comment finalement remettre en perspective des pensées, la philosophie liée à cette question avec cette pièce.
Moi, ce que j'ai noté, j'ai vu le spectacle hier, donc ce que j'ai noté, c'est que Camus, il pose des questions, mais il ne donne pas de réponse.
Ben non, c'est toute sa force justement de cette pièce. C'est que souvent d'ailleurs en répétition, on disait finalement ces 5 terroristes, c'est le même corps qui est séparé avec 5 mouvements de pensée. Et c'est ce qui est passionnant dans la pièce, c'est que finalement personne a tort ou a raison. Je crois que le public, il est trimballé justement sans arrêt avec ses propres questionnements liés à la question. Et Camus, voilà, c'est comme un anthropologue. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour amener une réponse, il n'est pas là pour donner une morale, il est là pour mettre en perspective la pensée.
Voilà. On peut dire un peu qu'il est chacun des personnages, puisque les questions sont siennes.
Absolument. Ouais.
Et il y a un passage dans la pièce où le terroriste, le poète, le poseur de bombes est reçu par la duchesse. C'est,
ouais.
C'est un passage tout à fait extraordinaire où la duchesse essaye de lui faire comprendre que c'est un homme qui l'a tué. Et elle essaye de le pousser vers le repentir.
Ouais, vers le repentir mystique, en fait. Parce que moi, j'aime bien me poser la question. Il me semble que la pièce, elle pose la question de comment être heureux dans un monde malheureux. et qu'en fait la grande-duchesse vient retrouver l'assassin de son mari et elle essaie d'entamer un dialogue avec lui en lui disant mais finalement on est dans le même problème, c'est-à-dire que moi aussi mon problème c'est l'amour, moi aussi mon problème c'est l'absence d'amour maintenant que vous avez enlevé la personne que j'aimais, moi aussi mon problème c'est la réalité, c'est Dieu, c'est et qu'ils essaient, enfin ils tentent de se retrouver l'un l'autre autour de Dieu, autour du repentir. Et le seul échappatoire pour Kaliaev, c'est surtout ne pas se repentir, bien qu'il serait tenté de le faire, parce qu'on peut imaginer quand on lit la pièce qu'il a été croyant, qu'il l'est sans doute toujours, qu'il avait la foi, mais qu'il l'a abandonné pour s'occuper des hommes, qu'à un moment il s'est détourné de Dieu pour s'occuper des hommes, pour s'occuper de la réalité terrestre. Et là, il y a la tentation par la grande duchesse de se repentir en Dieu, de la rejoindre en Dieu et d'espérer un monde meilleur ailleurs, dans l'au-delà, chose qu'il arrive à refuser.
D'ailleurs, après, pour poursuivre, excusez-moi, pour prolonger ce que dit Vincent, ce qui est aussi passionnant chez Camus, c'est que la pièce raconte, il y a en effet la question du meurtre via les 5 terroristes qui ont déjà des rapports extrêmement différents, qui ont déjà des points de vue très différents. C'est des pionniers, donc ils sont en train d'inventer des règles ou d'inventer, en tout cas d'être face à leurs propres contradictions par rapport à leur proposition d'acte. Et puis, donc il y a cet engagement politique qui est questionné par ces 5 figures. Et puis il y a l'engagement en effet lié à la foi qui est questionné par la grande duchesse. Qu'est-ce que c'est que l'engagement de ce qu'on appelle le rapport à la justice qui est questionné par la figure de Skouratov, c'est le rapport à l'engagement, je dirais d'une manière générique, qui est questionné dans toute la pièce. L'engagement amoureux, qu'est-ce que c'est que cet engagement amoureux? Il en est beaucoup question évidemment entre Kaliaev et Dora. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Est-ce que c'est contradictoire avec le politique? Est-ce que la vie et la mort, comment on associe toutes ces choses-là? C'est ce qui est donc passionnant et ce qui, je pense, peut, tout le monde peut se reconnaître dans ces questions permanentes.
Tout à fait. Moi, j'avais noté dans la pièce une influence de Dostoïevski, puisqu'on sait que Camus avait adapté les démons de Dostoïevski à la scène, où la problématique qui se posait, c'est si Dieu n'existe pas, tout est permis.
Ben oui.
Et quand la pièce est sortie en 1949, il y avait un journal de l'époque, le Libération de l'époque, qui avait titré son article « Les mains propres ». Les mains propres en écho à la pièce de Sartre qui avait été jouée un an avant, Les mains sales.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que la pièce Les Justes, ça contient en germe toute la rupture prochaine entre Sartre et Camus?
Ça la contient de fait, dans le sens qu'il y en a un, on va dire, qui a un point de vue qui l'affirme, en l'occurrence Sartre, c'est-à-dire qu'il a choisi des choses, il les assène, de mon point de vue. Il donne des réponses et il estime que ses réponses sont les bonnes. Et il y a un autre homme à côté. En face, qui est plutôt un philosophe, et son outil c'est le doute. Comme tout philosophe, c'est aussi tout le travail qu'on a fait avec les acteurs, qui était complexe. C'est que aucun d'entre eux devait arriver avec un point de vue fermé par rapport à leur figure. Elle était sans arrêt en questionnement, ce qui a amené cette forme que j'appelle moi épique. Mais ça, Vincent pourra en parler également.
On va faire une petite pause musicale. Chaque tableau dans la pièce, avant chaque tableau, entre chaque tableau, il y a un petit extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et donc, on va écouter un petit extrait dans la version d'Edwin Fischer.
Merci. Thank you.
C'est toujours difficile d'interrompre Jean-Sébastien Bach. Donc le clavier bien tempéré. Florent Robin, nous parlons pour le Tous au Poste ce matin de la pièce Les Justes de Albert Camus, mise en scène par Stanislas Nordet, qui se joue actuellement au théâtre des 13 Vents. Moi, je voudrais insister maintenant sur le travail avec les comédiens, sur le rapport au travail avec la mise en scène de Stanislas. Comment est-ce que vous avez abordé, comment ça s'est passé pour les recherches avec Stanislas pour ce travail?
C'est très particulier, c'est assez vraiment passionnant. C'est-à-dire que les répétitions, en fait, on avait vraiment l'impression que Stanislas ouvrait un espace laboratoire pendant 2 mois et une semaine, où chacun allait chercher, avait de l'espace pour chercher, avec énormément de contraintes imposées par lui, et dans ces contraintes, énormément de liberté d'imaginaire pour chacun d'entre nous, et de liberté d'action. Alors tout est basé sur l'acteur, en fait. Je sais même pas si Stanislas est vraiment... Évidemment, il est metteur en scène, mais c'est un des rares metteurs en scène, je pense, qui axe beaucoup de choses, encore aujourd'hui, en France, sur l'acteur, sur le travail de sur ce que c'est que de jouer la comédie, le rapport d'un acteur, ou plutôt d'une personne, au texte. Mmh. Et pour ça, c'était vraiment passionnant. Moi, je savais que de travailler avec lui... J'allais rentrer dans un univers particulier, mais je savais que ça allait aussi me faire grandir, progresser en tout cas dans la pratique d'acteur, mais je savais pas à ce point-là. Voilà, je crois que vraiment j'ai découvert quelque chose, j'ai élargi, et je pense que chacun des acteurs pourrait en parler de la même façon. En tout cas, aussi sur les trois qui n'avaient jamais travaillé avec lui, qui étaient Wajdi et Emmanuel et moi, qu'il a ouvert des espaces d'imaginaire, de rapport au texte que je ne connaissais pas.
Voilà. Il y a tout un travail avec lui aussi, surtout au niveau de l'articulation, de la façon de dire le texte. Ça revient dans toutes ces pièces.
Oui, alors après, je pense que c'est pas juste de dire que c'est un travail sur l'articulation, parce que jamais dans le travail de répétition, on demande à l'acteur d'articuler. On lui demande d'être profondément dans la pensée, profondément dans le mot. Chaque mot contient son paysage et il est très différent. Chaque mot a un paysage très différent, que ce soit le même mot pour Vincent, Emmanuel. Tous les acteurs de l'équipe vont résonner différemment, vont avoir une portée différente, et c'est ce qui passionne Stan et moi-même, bien sûr. Donc le rapport à la langue, il est comme la terre pour le sculpteur, quoi. Mmh. Hein, donc c'est vraiment une matière. Hein. La question, elle est pas de glisser, elle est vraiment de travailler chaque mot. Alors évidemment, ça veut dire qu'on n'élite pas, par exemple. Mmh. Hein, mais c'est pas quelque chose qui est un espèce de mot d'ordre au début. Attention, articuler. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui se fait dans la discussion et dans la répétition. Vraiment, encore une fois, dans le rapport à la matière de la phrase. Alors, je parle du mot, et puis après, il y a en effet la phrase. Qu'est-ce que la phrase contient comme mouvement, le mouvement de la pensée. Là aussi, dans la forme qu'on a mis en place pour Les Justes, il y a ce petit temps de césure entre chaque phrase. Chaque acteur, face à sa propre solitude, parce que c'est aussi un des partis pris de la pièce, et qu'ils sont tous terriblement seuls, mais finalement comme dans la vie, sont face à leur questionnement, et chaque phrase est une chose qu'on pose, qu'on laisse résonner pour soi-même. Très justement, Vincent a plus parlé de personne que d'acteur. Mmh. Tout le choix de la distribution et tout le travail de Stan est basé là-dessus. C'est avant tout des gens, et comment chacun d'entre nous va rentrer dans une œuvre, comme on rentre dans un roman, dans un livre, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment chaque acteur invité va faire entendre son émotion, son espace sensible face à ce qu'il est en train ce par quoi il est en train d'être traversé. Hein. Donc voilà.
C'est aussi le retour à la scène d'Emmanuel Béart. Ça faisait une douzaine d'années qu'on ne l'avait pas vu au théâtre.
Oui, alors oui, on peut dire ça. Après, chaque artiste, je crois qu'on parle de personnes qui sont conviées sur ce spectacle. Moi, j'ai aussi envie de rajouter un mot, c'est des artistes qui sont vraiment présents sur ce spectacle. Et chaque artiste, finalement, a un chemin de vie très particulier. Il y a des moments, il passe par le théâtre, puis il passe par un autre outil qui questionne la représentation, qui va être plus le cinéma, qui en est fait le chemin d'Emmanuel. Et puis voilà, là, la revoilà sur les planches. Moi, j'ai un petit peu de mal avec l'effet comeback, quoi. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'était arrêté. Je pense que rien ne s'est arrêté. Après, il faudrait lui poser la question à elle, mais la connaissant quand même un petit peu, je peux me permettre de dire ça. Simplement, voilà, elle est passée par d'autres chemins et c'est que du bonheur, en tout cas, qu'elle revienne sur le plateau avec nous.
C'est ce que j'allais dire. C'est un bonheur pour nous, spectateurs aussi.
Bah, j'espère, j'en suis sûre.
Alors donc, nous parlions des Justes d'Albert Camus qui se jouent actuellement au Théâtre des 13 Vents. Donc, ce soir, c'est à 19h, jeudi c'est à 19h, vendredi c'est à 20h45. Les prix, j'oublie toujours de parler des prix, c'est 21 € et 14 euros. Et c'est un bon plan, Divergence FM. Moi, j'ai adoré le spectacle et je vous convie à y aller nombreux. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce Tous au Poste.
Merci beaucoup.
C'est ainsi que se referme ce Tous au Poste tout en théâtre aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Florent Robin, Julia Chamaudon au micro et Pascal Ruyer derrière les petits boutons. À suivre sur le 93.9, vous retrouverez les chroniques d'Olivier Notal. Les dents à série, il commente l'actu, ce sera à 13h20. Et puis votre rendez-vous du 7e art avec nos compères habituels, ce sera Cinérama à 13h30. À 16h50, un petit détour de côté de cuisine et décadence. Nous n'oublierons pas, bien sûr, à 16h58, Radio Missy de votre laboratoire des horreurs humaines quotidiennes. Et puis à 17h, ce sera un rendez-vous avec l'information internationale, c'est RFI, bien sûr, un flash info de 10 minutes. Avant notre Tous au Poste, la rediffusion de ce Tous au Poste à 17h20. Et puis Cinérama, la rediffusion à 18h pile. À 19h, ce sera 24 notes secondes, un tour d'horizon et bien des bandes annonces qui ont marqué le cinéma français. À 19h30, rendez-vous entre littérature et rock avec Marie-Pierre Soriano aux commandes. Et puis bien sûr, à 20h30, n'oubliez pas notre rendez-vous en direct de l'Agora des Savoirs, une conférence. Voilà, c'est tout pour le programme du 93.9 d'aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes une agréable après-midi bordée de soleil.